Il ne se passe pas un temps, pas une seconde, pas un quelque chose, c'est-à-dire rien. C'est rapide, c'est tout. Un vieux mot existe pour dire ça mieux, vitement, mais le temps de s'en souvenir, le temps est passé, si vite. Car il ne se passe pas rien, et arrive, 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 se déplace. L'espace en place décale. Et s'arrive là, comme intervalle, calé entre deux précédents, simplement le présent, ici. Parfaitement placé au présent dans ce lieu et ce temps, comme une existence même concentrée là, présent. Comme toujours présent, toujours a été présent. Comme l'intuition que sera toujours a été. Le présent comme passé et futur, comme résultat de leur superposition, mais en leur absence. Ça seul reste substance. Maintenant. Ici et maintenant. Là, concentré en deux lettres. Là. Présent comme maintenance. Là. Simultané de passé et de futur, agglutiné en un et en un lieu. Là. Présent comme venu sans être venu. Spontanéité même. Il regrette le passé et à l'avenir sera regretté, ici, sur la feuille. Toujours en recherche. Archéologie de la mémoire. Main intérieure creusant. Déblayant ce que charrie un fleuve dedans. Incarné dans ce langage. Venu logofacturer l'état des choses. Intercalé pour déplacer. Invention, création, invocation, comme appel à la voix. Produit, fait, à voix. Main présente, ici, comme si sans main pas de voix. Présente en chair, car pèse sur les choses, poids sur tout. Main comme poids preuve d'une présence au monde, matière, cri, disant. C'est bien là ce dont je parle, le présent action, qui non précède l'écriture mais la procède. Presque l'écriture, presque le temps de l'écriture. C'est comme l'action soumise aux forces du passé, du futur, en filigrane, dans l'instant déjà disparu d'écrire mais en germe pourtant. Ce présent est une voix qui parvient à quelqu'un dans le noir. Cette voix s'infiltre et infiltre d'encre, de flux réticulaires, des mots en sens différent, singulier. Circule comme trace de bleu sous la peau de la main, avant la voix, cette encre. Circulant, donne vie à un corps extrémisé d'une main pesante, main traçante, poids d'un monde, fût-il infime, présent sur bois. Car toujours le bois, mince, infime feuille, brute, étable, où glisse un tiroir ventre avalant ou dévalant les feuilles de ce bois, mince et blanc. Main, ma main, ma main maniant, ma main facture, mime imitant, aimant manier fracture, murmure manu, fourmillant, frémissant, murmure minime. Rémissant au mur comme haute coupure, haute hissant là-haut, quoi peut-être du mal en moins, mais dans le minime, le minimum, un écho amoindri, dont je cherche trace dans son impact sur la roche de la mémoire. J'ai encore en mémoire ceci, dans un bar du 8e arrondissement de Paris. Depuis ma place, où je bois un café, je peux voir et entendre, à quelques tables de moi, un représentant en savonnette, gel douche, sel de bain et shampoing pour hôtel. En fait, je suis obligé de l'entendre. Sa voix porte bien, il ne parle pas trop fort. Je vois, j'entends et j'écoute. Le représentant a la quarantaine. Comme son client à qui il récite avec une conviction, qui le dispute à l'érudition, sont sujets de parfums, de gammes, d'essences, de couleurs. Je suis presque face au vendeur et peux observer son costume impeccable comme neuf. Gris, chemise blanche, quadrillé de bleu, cravate jaune. Sa coupe en de cheveux en brosse, mais une brosse non exagérée, presque pas une brosse. Rien à redire, si l'on veut. Il a un visage franc. Dans le regard, une symétrie, quelque chose qui force la sympathie. Il n'est pas clinquant, pas exagérément souriant. Il sourit souvent et naturellement, peu et sans forcer. Voilà, c'est ça, il ne force rien. Il incarne son métier de vendeur. Et en retour, son métier l'incarne. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est ce que je ressens et ne trouve pas une autre façon de le dire. En d'autres termes, lui acheter des articles de bain paraît être une bonne chose. Une garantie de passer un moment agréable, de savoir que l'on ne perd pas son temps. Il est convaincant, je le vois, je l'entends, je le comprends. Ses produits sont bio, éthiques, recyclables. Ils sentent bon, les couleurs sont naturelles. Le client hoche la tête, prend des notes, car il y a des noms, des pourcentages. J'entends presque tout de l'argumentaire, mais ne retiens pas forcément l'essentiel. D'ailleurs, faut-il retenir l'essentiel dans ce cas-là? Il suffit de se laisser porter, d'ouvrir un échantillon de salle de bain, de le respirer. Il y a des « au bas mot », des « c'est vous dire », des « c'est un bon produit », des « c'est pas par plaisir », mais des « la législation est très claire », des « sur cette gamme de produits on retrouve des « les femmes adorent ça ». Et pendant qu'il dit tout ça, je vois ses yeux au vendeur. Je vois bien son regard. Je ne vois pas le regard de l'autre, le client, qui est de trois quarts d'eau. Mais je sais à la manière dont il relève la tête et la maintient quand leurs regards se croisent. Le client prend des notes, respire un échantillon, soupèse un flacon, lit une brochure que l'autre feuillette à sa place en la tenant à l'envers pour lui indiquer d'un majeur tendu ce qu'il convient de retenir page après page. J'aurais cru l'index mieux indiqué, plus poli, mais sans doute cela est-il pensé aussi sur la longueur de ce doigt qui ouvre peut-être plus la lecture, à moins qu'inconsciemment. Et dans ce cas-là, quand les regards ne se soutiennent pas l'un l'autre, quand le regard, dans le regard du vendeur, je lis la fatigue, mais pas la fatigue du jour. Non, pas seulement. Je ressens sa fatigue comme étant plus profonde, plus ancienne. Je la vois dans ses pattes de doigts, dans les rides de son front, dans le port de ses épaules, tout un ensemble de faibles amoindrissements qui se lient aussi dans la tête qui tourne assez régulièrement vers la vitrine du bar, vers dehors, ou vers une femme que je ne vois pas, mais vers qui moi non plus je ne pourrais m'empêcher de me tourner. Leur dialogue se poursuit. Le client pose des questions, car c'est son rôle de poser des questions. Et le vendeur y répond, car c'est son rôle d'avoir réponse à tout. Au bout d'un moment, le client, poliment, rappelle l'heure, car il sait que le vendeur a un train à prendre, gare du Nord, mais l'autre, professionnellement, a encore bien le temps de parler de cette gamme-ci. Cette fatigue dans les yeux qui soutiennent avec peine le regard de son client et préfèrent retomber sur les échantillons. Et d'ailleurs, le regard du client est le même. Il retombe aussi régulièrement sur les échantillons, les brochures, les chiffres. J'ai déjà dit qu'il a le même âge. Il a aussi le même costume, si neuf. Pas le même, vraiment, mais la même qualité de brillant, de gris. La même coupe de cheveux rases et polis. La même obligation d'être là pour acheter, pour tenir son rôle de commercial achat, pour parler avec assurance de ce qu'il sait des produits de bain, des besoins de son hôtel, sans doute un hôtel luxueux du quartier, 4 étoiles. Je la connais, je la reconnais, ce n'est pas la fatigue du jour présent, pas celle de la fin de journée, 18 heures passées, pas non plus celle de la fin de journée à venir avec le train encore après Gare du Nord. Notre fournisseur habite la banlieue lointaine. peut-être même la Picardie, Chantilly, Creil, ou même plus loin encore, Beauvais, Compiègne ou Amiens, et il ne sera chez lui qu'à 20 h. Non, cette fatigue est celle des jours passés, de tous les jours passés, et de ceux à venir, tous ceux à venir. Tous les jours à passer dans un costume irréprochable, à tenir un discours précis, en vue de vendre des savonnettes, des tubes de gel bain douche, shampoing, sel, bain parfum, ambiance salle de bain. Un discours toujours le même, avec les infimes variations saisonnières de gamme, de collection, de réglementation, de tarifs, de promotion, variations qui, bien sûr, n'entament pas le refrain de fond. Le refrain de fond, cet éternel. Donnez-moi de l'argent, je ne fais pas métier. Donnez-moi de l'argent, aidez-moi à atteindre mes objectifs. Vous aurez des produits, signons un contrat, faisons notre travail qui nous permet de vivre, manger, dormir sous un toit, être propre et s'habiller décemment. J'ai une famille, donnez-moi de l'argent, laissez-moi vivre. Et je ne vois pas le visage du client, mais cet acheteur aussi a une vie de famille, un métier, des objectifs, lui aussi a sa ritournelle vitale. Prenez mon argent, vendez-moi vos produits, aidez-moi à atteindre mes objectifs, aidez-moi. Et donc l'heure tourne, la vente suit son chemin. Les grilles tarifaires se dévoilent un peu plus. La feuille A4 d'un devis est remplie au stylo Bic. Les gestes du vendeur ne sont pas plus empressés ni plus démonstratifs. Son ton reste égal. Pas de joie excessive ni même modérée. Il s'agit simplement de la suite attendue de la négociation. Ces gestes sont ce qu'ils doivent être sans plus. Et ils seront aussi ce qu'ils doivent être au moment de régler l'addition, car c'est bien entendu le rôle du fournisseur. Et à partir de là, je perds de vue le représentant et son client. Sur la table restent les deux théières et les deux tasses, et les sachets de thé qui ont commencé à sécher. Et à la table, à côté de celle-ci devenue vide, je ne peux qu'entendre cette femme raconter à son amie l'histoire d'une collègue. Retour de congé maternité, nouvelle direction, suite à une fusion ou une acquisition, peut-être les deux. Nouveau service, nouvelle organisation, nouveau chef, ancien collègue, déjà plus tous là, et à elle le nouveau patron dans le bureau de l'ancien, entre quatre cieux, lui dit: maintenant que votre congé maternité est terminé, je peux enfin vous virer. Sauf si vous avez un autre nom à me donner à la place du vôtre, qu'elle n'avait pas, cet autre nom. Et le soir, chez elle, licenciée, elle ne pleura pas, elle vomit. Dehors, les gestes du représentant seront ceux de la poignée de main, du regard d'au revoir, avec le hochement de tête, juste ce qu'il faut. Et puis monter dans le bus pour la gare du Nord. Le ticket à valider, trouver une place assise ou rester debout, et puis descendre à la gare. Là, le regard levé vers le panneau d'affichage des départs, ces gestes seront ceux qu'il faut faire en telles circonstances. Composter, trottiner vers le quai pour être sûr d'avoir une place assise dans le wagon le plus proche de l'escalier de sortie à sa gare d'arrivée. Tous les gestes à venir seront ceux qu'ils doivent être, dans le train et en sortant, dans la gare jusqu'au parking de la gare, où sans doute sa voiture est garée, les gestes qu'il faut faire au volant, dans la voiture, sur le trajet jusqu'au foyer, quelques gestes encore auprès de ses deux enfants, 10 et 15 ans, et de sa femme dont le regard partage la même fatigue des jours, les gestes qui conviennent, les gestes convenables. Ceux de tous les jours, ceux d'avant et ceux à venir, ces gestes, tous ces jours, tous ces gestes faits et ceux à faire et tous ceux gestes qu'on ne fait pas. comme sur cette photo. Un tag sur un mur. La crise, c'est chaque fin de mois. Le S de moi est effacé, ou écrit plus vite, moins fort, comme un geste qui manque. La crise, c'est chaque fin de mois. Le S écrit en dernier, et soudain, il n'y a plus de temps. Le mur, orangé, par les lampadaires, s'éclaire un peu plus. C'est une voiture qui approche, peut-être la police. Pas le temps de repasser plusieurs fois sur la lettre, à peine celui de vite à tracer, écrire dans l'urgence. Fin de mois. Chaque fin de mois, je meurs un peu. La crise tue un petit feu. La crise m'efface lettre à lettre. La crise vide les marqueurs, nettoie les murs, efface les mémoires, tarit les imaginations, essore les mois. La crise, ça ne veut rien dire. C'est un regard filmé en différé. La crise, ça ne veut rien dire. C'est un souffle qui sort du poste de radio. La crise est dans l'odeur de renfermé de l'air du temps. La crise fait circuler les flux de bas en haut. La crise est la pelletée de sel sur la neige de tes illusions. La crise écrit son cirque de rire sur la cire des cris. La crise sauve l'entreprise. Au fait, merci pour ton départ volontaire, sans rancune, à la prochaine. La crise remue son couteau dans ta plaie. L'aspirine à l'arsenic de la crise. La crise est télévisuelle, photogénique. Juste dans les aigus comme dans les graves. Maquillée et courte vêtue. Athlétique, elle a réponse à tout. Du tac au tac qu'elle résout tous tes problèmes. Fais ton ménage, ton dîner parfait, ton bricolage, ta peinture et ta déco. Te trouve le conjoint idéal dans les 24 heures, t'emmène au baléar. Fais pousser des fleurs de saison dans ton jardin, te trouve un nouvel appart, écoute tes confidences. Te tape sur l'épaule, te donne de l'argent, te tape de l'argent, mets des paillettes dans tes yeux. T'oblige à voter le couteau utile sous la gorge. Te demande si tu es heureux. Et oui, bien sûr que tu l'es, car ce système est le meilleur à l'exclusion de tous les autres, qui par ailleurs ont fait des millions de morts, sans sourciller, pendant qu'elle pleurait avec toi, en tenant fermement ton bras au-dessus de l'urne remplie de la cendre des vrais choix. La crise reconnaît volontiers le sens de responsabilité des syndicats. La crise se lève tôt pour gagner plus. La crise pratique la démocratie participative hors de toute instance représentative. La crise fait la révolution dans des grèves isolées et bien isolées les unes des autres. La crise vante les bienfaits de la colonisation et les prêts usuriers du FMI. La crise, c'est tout ce qu'on entend. Une preuve d'existence de la crise, c'est la crise, la crise, la crise. Ça s'appelle C-A-P-I-T-A-L-I-S-M-E. La crise sponsorise les carrières politiques. La crise inégalise verticalement et égalise horizontalement. La crise grimpe le ventoux sans respiration ni dopage. La crise ouvre ton courrier, lit tes mails et tes SMS, écoute ton téléphone, log ta navigation, t'envoie des offres promotionnelles et des amendes graduées, affiche des mots-clés ciblés dans ton espace visuel. La crise, je te vois, la crise, je te vois. La crise. La crise fouille ta bibliothèque. Trouve une échelle et des horaires SNCF de terroristes dans ton garage. T'arrête dans la rue, arrache ta boucle d'oreille, te perce un œil, te place en garde à vue, laisse les clés sur ton scooter, publie un démenti, mène l'enquête. La crise décrète ton devoir de réserve et ton droit imprescriptible de te taire. La crise est une peste porcine. La crise ne dit rien du taux de mortalité des porcs ayant attrapé la grippe humaine. La crise à de petites mains fileuses de laine. La crise de ces millions de bras musclés sait manier la grue, poser des cloisons de béton armé au 37e étage, creuser des tunnels, extraire le pétrole et le diamant, tout ça pour un salaire d'une remarquable humilité. La crise, c'est 1, 2, 3 soleils à balles réelles. La crise est à l'aise dans tes baskets. La crise ne reste pas plus de 24 heures à la maternité. La crise, même grippée, bosse de chez elle. Et que dit le ministère de la Santé sur la crise? Que dit le ministère de la Santé sur la crise? Le ministère de la Santé, de la Jeunesse, du Travail, des Sports, de la Tendresse, de la Bienfaisance et de la Paix rappelle les conclusions de l'expertise mondiale devant être tenues comme universelles sur la crise. Aucune preuve scientifique, aucun dogme religieux, aucun sondage d'opinion, aucun micro-trottoir, rien ni personne n'a démontré que l'utilisation de la crise, son contact, ou le fait d'y penser, présentait un risque non négligeable, que ce soit pour les grands, les petits, les animaux, les plantes, les minéraux, les rêves, les taux de rendement, les produits intérieurs. Cependant, quelques milliers d'études scientifiques parues hier matin, et qui ne nous ont pas laissé le temps de réimprimer la brochure, aurait pu vous informer de la mise en évidence d'un risque qui semblerait exister dans l'usage frénétique de la crise, quotidien, nocturne, près du corps, et sur des décennies sans interruption d'usage de la crise. Toutefois, les limites inhérentes à ce type d'étude nous permettent de conclure à l'absence de risque quant à l'usage quotidien, nocturne, près du corps, exalté et payant de la crise. L'hypothèse d'un risque ne pouvant pas être complètement exclue, car elle ne le peut jamais, il n'y a rien qui empêche l'utilisateur de la crise d'être plus ou moins prudent et, en tous les cas, nous le laisserons faire acheter la crise. Oui, acheter la crise.